On va tout de suite partir du côté du Parlement pour les questions orales.
Rosalie Beressis.
Oui, bienvenue à cette séance du Parlement, l'antépénultième de l'année, avec une première question orale qui va débuter de la députée PS de Porrentruy, Rosalie Beressis.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, notre canton s'est doté d'une stratégie énergétique ambitieuse visant l'autonomie énergétique. Pour accompagner ce tournant décisif, le gouvernement a désigné Énergie du Jura SA, communément appelée EDJ, comme partenaire central. Le 31 mai, j'interpellais déjà notre exécutif sur les missions qu'il prévoyait confier à EDJ dans son futur contrat de prestation. Contrat de prestation qui aurait dû être renouvelé en juillet dernier. 6 mois plus tard, on ne voit toujours rien venir. La seule communication concerne le départ du directeur d'EDJ annoncé la semaine dernière. Dans ce contexte, vous comprendrez mes préoccupations et mes doutes quant à l'atteinte de nos objectifs. Le gouvernement, par son ministre de l'Environnement, par ailleurs président d'EDJ, peut-il dès lors nous renseigner sur le positionnement qu'il entend donner à cette société ? De plus, peut-il nous rassurer sur le fait que tout est mis en œuvre pour permettre l'ambitieux projet de la transition énergétique. Je le remercie pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, j'invite à la tribune Monsieur le ministre David Herré.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Madame la députée, vous avez bien pris note que le directeur d'EDJ, après 4 années au service de l'entreprise EDJ, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il a été donc remercié par le conseil d'administration pour le bon travail effectué. Il terminera au terme de son contrat, donc à fin janvier 2018, et ceci dans un contexte très correct et très cordial. Concernant le contrat de prestation, effectivement, il y a des discussions qui sont en cours au sein du gouvernement, avec déjà une première lecture qui a été réalisée. Et effectivement, le contrat de prestation est actuellement à bout touchant, avec quelques ajustements qui sont effectués pour une deuxième lecture au gouvernement. Et ensuite, cela sera bien évidemment soumis à notre partenaire, donc au partenaire du gouvernement qui est EDJ, que je préside effectivement, comme vous l'avez dit, pour que le contrat de prestation soit validé par les deux parties. Et c'est ainsi que nous entendons mener à bien la politique énergétique cantonale, comme le veut donc le contexte légal qui souhaite que le gouvernement travaille également avec le partenaire EDJ pour la mise en œuvre de la stratégie énergétique cantonale.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Rosalie Beressis est satisfaite. Pour la deuxième question, j'invite à la tribune Monsieur le député Edgar Sauzère.
Voilà, Edgar Sauzère, député PLR des Breuleux. Pour la deuxième question orale, il y en aura 16
pour cette séance du Parlement. Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, après l'acceptation massive par le peuple suisse de l'initiative pour une sécurité alimentaire, le 24 septembre dernier, le Conseil fédéral vient de publier dernièrement son rapport sur la politique agricole que nous appellerons ici 2022+. Et là, surprise, on ne parle plus de soutien à une production locale, production axée sur le respect de l'environnement, on ne parle plus d'agriculture familiale, ce que le peuple avait pourtant plébiscité, mais d'ouverture progressive de nos frontières. Pourra-t-on encore parler de sécurité alimentaire lorsque les denrées alimentaires venant de l'étranger submergeront la production indigène, soumise, elle, à des règles de production beaucoup plus sévères? L'agriculture suisse deviendra-t-elle une monnaie d'échange? J'en arrive à ma question. Dans un canton où 9 citoyens sur 10 ont dit oui à cette initiative le 24 septembre, le gouvernement va-t-il réagir à ce texte et prendre position sur la vision du Conseil fédéral concernant la future politique agricole 2022+. Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, j'invite à la tribune monsieur le ministre Jacques Gerber.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député, la première question à se poser est certainement celle de savoir si le statu quo au niveau agricole, au niveau de la politique agricole suisse, est envisageable. Est-ce que la politique agricole actuelle répond aux critères environnementaux, aux objectifs environnementaux fixés? Est-ce qu'elle répond à la sécurité alimentaire voulue par le peuple? Est-ce qu'elle répond aux équilibres nécessaires entre les différents secteurs économiques de ce pays? Si la réponse est négative, alors, monsieur le député, le gouvernement est d'accord avec vous. La réponse actuelle du Conseil fédéral ne peut, à ses yeux, pas être la solution. Le gouvernement est cependant d'avis que nous ne devons pas fermer la porte à toute ouverture et que les différents protagonistes doivent se mettre autour de la table pour discuter de la future politique agricole suisse. Le gouvernement sera par contre extrêmement attentif à différents aspects de cette transition, de cette nouvelle réforme au niveau agricole, notamment au fait que la baisse des prix des produits agricoles doit profiter uniquement, exclusivement aux consommateurs et pas aux intermédiaires. Aux conditions d'accès au marché, il est par exemple inacceptable que pour importer un cheval en Suisse, cela coûte 200 francs, alors que pour exporter en France, ça coûte plus de 1 400 euros. Également attentif à la réduction des coûts de production, des efforts sont encore possibles dans ce domaine. Il faut absolument supprimer les positions dominantes de certains importateurs. Et ensuite, comme vous l'avez mentionné, être extrêmement attentif à la garantie d'une concurrence basée sur les mêmes conditions. Il n'est pas envisageable d'accepter des importations, par exemple, de viande aux hormones, d'OGM ou d'animaux qui n'auraient pas les mêmes conditions de détention qu'en Suisse. Et finalement, l'évolution doit être supportable, socialement supportable, pour l'ensemble des perdants de cette future réforme. Elle doit être supportable avec des mesures ciblées, ce qui n'est pas toujours le cas de la politique agricole. C'est seulement à ces conditions qu'une certaine ouverture pourrait entrer en ligne de compte. Comme je vous l'ai mentionné, le gouvernement y sera attentif et interviendra en fonction des besoins auprès du Conseil fédéral.
Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Edgar Sauzère est satisfait. Pour la troisième question du jour, j'invite à la tribune monsieur le député Thomas Stettler.
Thomas Stettler, député UDC de Soyères, qui va donc poser cette troisième
monsieur
question.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, le gouvernement joue au Monopoly. La vente aux enchères d'une exploitation agricole suscite l'incompréhension totale dans le monde paysan. Après l'Institut Saint-Germain, c'est maintenant le canton qui surpaye la terre. Pire, on pousse un jeune paysan à acheter un domaine hors de prix. L'administration, qui doit défendre le droit foncier rural et veiller au respect de la Constitution, a bafoué tous ses principes. Pour assouvir ses besoins, tous les moyens sont bons. On en oublie sa religion. Étant jugé parti, les instances cantonales ont commis le parfait délit d'initié. Juridiquement correct, mais moralement en dessous de toute considération. Les agriculteurs, sous la pression de l'urbanisation et de l'écologie à tout va, revendiquent à juste titre que les surfaces qu'ils perdent soient compensées. Le petit coup de Monopoly est donc qu'une miette pour attraper les oiseaux rares de Delémont. Mais c'est surtout un appel fatal à des revendications futures de paysans touchés par l'urbanisation et autres réserves à grenouilles. Votre choix d'éviter un débat politique en restant dans les compétences financières du gouvernement est lâche et manque de vision à long terme. User d'un voisin pour éviter un morcellement est une impasse à la loi, sans scrupule sur la situation future de votre partenaire. Pas sûr que d'attribuer des terres à Courtemelon vous donnera aussi le droit de les soustraire ensuite à titre de remplacement. L'affaire étant faite, je ne peux que demander au gouvernement pourquoi avoir opéré en catimini, alors que cette opportunité aurait valu un débat politique et une stratégie de portée plus large que d'acheter coire sur la table du Monopoly. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, j'invite à la tribune monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, j'aimerais tout d'abord vous rassurer pour vous dire que le gouvernement était conscient que la vente de domaines est un sujet sensible dans le monde agricole. Le gouvernement également est conscient que l'économie agricole ne vit pas des moments très faciles actuellement, avec des perspectives qui ne sont pas très claires au niveau de la politique fédérale. Et le gouvernement est également sensible au fait que certaines exploitations paysannes ont un niveau d'endettement élevé qui ne rend pas la vie facile à ces exploitants. Maintenant, concernant votre question, pourquoi ne pas avoir agi publiquement en amont de cette vente, et etc. Donc le gouvernement a aussi réfléchi à ces options. Et effectivement, une des options, c'était d'acheter le domaine en entier pour avoir les 15 hectares à disposition pour des compensations. Mais cela aurait nécessité soit d'acheter, de miser et ensuite de venir au Parlement demander un crédit sup pour pouvoir payer le montant qui a été misé, avec le risque que le Parlement refuse le crédit. Et derrière ça, donc, refus du crédit égale annulation de la vente, remise aux enchères, et le canton aurait été tenu de payer la moins-value d'une vente qui se serait peut-être faite à un niveau plus bas. L'autre option, c'était de venir devant le Parlement demander un crédit suburgent, et ainsi donc, toute la République, tous les acteurs ou toutes les personnes intéressées à l'achat auraient connu le montant pour lequel le canton était prêt à miser, ce qui aurait biaisé la vente aux enchères, et ce qui aurait de plus fait monter encore plus le prix de ce domaine agricole. Et donc le gouvernement a préféré, puisqu'il a été contacté par un agriculteur, joindre cet agriculteur, le laisser miser et reprendre donc 28% de l'achat qui a été fait par cet agriculteur. Et même si finalement ça a réveillé quelques velléités des réactions, on a aussi senti ces réactions du monde agricole, nous considérons que c'est une bonne opération dans l'intérêt général et dans l'optique des compensations agricoles que nous pourrons faire avec ces 3 ou 4 hectares qui ont été acquis par le canton consécutivement à cette vente.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Thomas Stettler n'est pas satisfait. Pour la quatrième question, j'invite à la tribune monsieur le député Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député PCSI de Montfaucon, qui va donc prendre place à la tribune.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, départ de la garde faune. Nous avons appris par la presse du 9 novembre 2017 qu'une garde faune avait démissionné un peu moins de 4 ans après son engagement. Cette garde faune pointe notamment du doigt le programme d'économie Optima, qui a réduit, selon elle, les moyens humains à disposition dans le terrain. Un personnel de bureau plus nombreux que les gens de terrain est également évoqué. De manière plus générale, elle regrette que les moyens mis à disposition pour la surveillance de l'environnement ne soient pas suffisants. Il est étonnant de voir une personne encore employée par l'État s'épancher de la sorte dans les médias régionaux, quitte du devoir de réserve. Fort de ces quelques constatations, le gouvernement peut-il nous donner sa vision et son interprétation de ces événements ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Et pour la réponse de gouvernement, je cède à nouveau la parole à monsieur le ministre David Herré.
Ministre de l'Environnement.
Voilà, monsieur le député. Effectivement, cet article qui a paru dans la presse a suscité d'assez vives réactions, que ce soit au niveau des gardes, au niveau des chasseurs, au niveau du personnel de l'Office de l'Environnement. Mais cet article a aussi interpellé l'autorité, puisque son contenu était quelque peu étrange. Donc, suite à cela, une procédure administrative a été initiée et la personne en question a été donc entendue dans le cadre de cette procédure, conformément à l'ordonnance sur le personnel. Les infos, donc, maintenant, ont été récoltées auprès de cette personne et ils sont en examen auprès du service des ressources humaines. S'il s'avère que cette personne a violé son devoir de réserve, alors des mesures seront prises. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de suite qui sera donnée. Pour le reste, je ne peux pas dévoiler les détails de la procédure, mais je reste à disposition du Parlement, au travers de la CGF, si le Parlement souhaite d'autres informations.
Merci, monsieur le ministre, pour ces informations. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Hénin est satisfait. Nous en sommes à la cinquième question du jour et pour ce faire, j'invite à la tribune monsieur le député Yvan Godat.
Yvan Godat du Bémont, député vert et CS Pop.
Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame et messieurs les ministres. Une majorité semble se dessiner au sein de ce Parlement pour exempter de salaire minimum les branches économiques dotées d'un contrat type de travail. imaginé afin de ne pas soumettre l'agriculture au salaire minimum, ce que personne dans cette salle ne conteste, étant donné le caractère particulier de cette profession, cette disposition est cependant problématique, car elle exemptera de fait de salaire minimum d'autres branches économiques pour lesquelles un tel outil semble plus qu'indiqué afin de lutter contre des salaires extrêmement bas. Ainsi, dans le domaine de la vente, le contrat type prévoit pour une personne non qualifiée des salaires horaires oscillant entre 17,15 francs et 18,05 francs de l'heure après 5 ans. Pour une personne au bénéfice d'une formation de 2 ans, le salaire horaire de base est de 18,05 francs, puis de 18,60 francs après 3 ans. Et finalement, pour une personne qui a suivi une formation de 3 ans, cette personne gagnera 18,85 francs les 3 premières années, puis 20 francs de l'heure au-delà. Difficile d'imaginer que l'on puisse joindre les deux bouts avec de tels salaires. Les chiffres du service de l'action sociale indiquent au contraire qu'une personne adulte vivant seule dans le canton du Jura en 2017 doit gagner environ 20 francs de l'heure pour atteindre les minima sociaux prévus au titre des prestations complémentaires AVS-AI. Qu'est-ce que le domaine de la vente a-t-il de particulier pour justifier qu'il soit soumis à des salaires inférieurs au salaire minimum ? Lui-même, déjà extrêmement bas, comme l'ont relevé certains députés lors du débat de première lecture, on est en droit de se poser la question. Je doute que nos concitoyens comprennent la raison d'être d'une telle exception. Au contraire, il me semble que les Jurassiennes et les Jurassiens ont manifesté clairement en 2013 leur volonté de voir disparaître des salaires si bas qui ne permettent vraisemblablement pas aux employés qui les touchent d'en vivre. Ma question au gouvernement est très simple. Une personne non qualifiée ou une personne avec une formation de 2 ans active dans la vente atteint-elle les minima sociaux, c'est-à-dire parvient-elle à vivre de son travail avec les salaires prévus dans le contrat type de la vente? Je remercie par avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber en charge de l'économie.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de m'étonner, monsieur le député, que l'on utilise la question orale pour anticiper le débat sur le salaire minimum que l'on traitera tout à l'heure. Il faut dire ici à cette tribune qu'il est impossible de répondre à la question de manière précise car on veut comparer des pommes avec des poires et en tirer des conclusions à sens unique. Vous avez parlé de l'action sociale. Les tarifs au niveau de l'action sociale tiennent compte de situations familiales et autres que le salaire minimum ne fait pas. En effet, le salaire par heure dans le contrat type que vous mentionnez, du reste discuté et introduit en collaboration et en accord avec les syndicats pour le secteur de la vente, devrait encore tenir compte du 13e salaire, ce que vous ne faites pas dans les chiffres que vous mentionnez. Avec le 13e salaire, le salaire mensuel du salaire au sein du contrat type avoisine les 3 500 francs, ce qui correspond à peu près au 19,25 proposé par le gouvernement dans le cadre du salaire minimum, ce qui correspond après déduction des cotisations aux assurances sociales obligatoires, un montant mensuel couvrant les besoins vitaux au sens de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI pour une personne adulte vivant seule. Le contrat de travail, type de travail dans la vente, est en fait une mesure d'accompagnement. Car il y avait, vous avez raison, un réel déficit et de réels excès. En fonction des débats, en fonction du résultat lié à la discussion sur le salaire minimum, on peut rediscuter, on peut revoir si un contrat type dans la vente est encore nécessaire ou pas. Cette question est tout à fait ouverte. Pour terminer, il est peut-être bon de répéter que le salaire minimum est et doit être un salaire social qui permet de corriger les excès. Mais j'ose espérer qu'il ne devienne jamais la référence ou pire, la règle, car ce serait un bel autogol, aussi bien pour les salariés que pour l'économie jurassienne.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ?
Pas satisfait.
Monsieur le député Yvan Godin n'est pas satisfait. Nous passons à la 6e question du jour et je cède la parole à notre vice-présidente, madame la députée Pauline Queulot.
Pauline Queulot, députée PDC, originaire de Saint-Bray.
Monsieur le président, madame et messieurs les ministres, chers collègues. Berne déclare la guerre aux paysans, titrait le journal 24 heures le 1er novembre 2017. C'est ce jour-là que le Conseil fédéral a annoncé son projet de nouvelle politique agricole qui a immédiatement provoqué une avalanche de réactions au sein du monde paysan. Insultant envers le monde agricole, le Conseil fédéral nous envoie aux soins palliatifs. Le Conseil fédéral veut sacrifier l'agriculture. Voilà ce qu'on a pu lire et entendre de la part des représentants de l'agriculture, et à juste titre. C'est l'ensemble du monde agricole qui est scandalisé, y compris les jurassiens. La position du Conseil fédéral choque, interpelle et suscite de virulentes réactions. Notre Parlement réagit également. Durant la séance de ce jour, une résolution interpartie sera déposée pour intervenir au niveau fédéral et montrer clairement notre désapprobation. En revanche, depuis cette annonce, il y a 20 jours, c'est silence radio du côté du gouvernement jurassien. Nous n'avons pu entendre aucune réaction du ministre de l'Agriculture avant aujourd'hui, grâce à la question orale de notre collègue Edgar Sauzer. On vient donc d'apprendre que le gouvernement interviendra en fonction des besoins auprès du Conseil fédéral en temps opportun. Mais si ce n'est pas tout de suite, je me demande quand on sera en temps opportun. Le gouvernement peut-il dès lors nous expliquer pourquoi il n'a pas réagi avant aujourd'hui et quand est-ce qu'il considère que ce sera opportun? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée pour la réponse du gouvernement. J'invite à la tribune Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Madame la députée, le gouvernement jurassien, dans sa composition actuelle, n'a pas l'habitude de gesticulations oratoires par presse interposée. Il réfléchit aux propositions qui lui sont faites avant de prendre position. C'est ce que l'on a fait lors d'une discussion ce mardi au sein du gouvernement, pour discuter de cette question sur la politique agricole jurassienne. Évidemment, le gouvernement suit le dossier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière attentive. Parfois, il est préférable d'intervenir en bilatéral auprès des acteurs fédéraux plutôt que par presse interposée. Les effets sont beaucoup plus efficaces que, si vous me permettez l'expression, d'être noyé dans la masse des personnes qui sont opposées au projet en question. Encore une fois, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un projet défini, dans un projet de loi au niveau fédéral. Nous avons dans les procédures en cours encore du temps pour intervenir. Il faut le faire de manière intelligente, mais je confirme ici que le gouvernement jurassien entend défendre ardemment les intérêts des agricultrices et des agriculteurs jurassiens dans toute cette question de la réforme de la politique agricole future.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ?
Partiellement satisfaite.
Madame la députée Pauline Queloz est partiellement satisfaite. Pour la prochaine question, je cède la parole à Monsieur le député Jean Bourcard.
Jean Bourcard, franc montagnard originaire des Breuleux et député PS, qui va donc s'avancer à la tribune pour cette septième question orale sur les 16 qu'il y aura aujourd'hui.
Monsieur le Président, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, le 18 novembre 2015, ma collègue Françoise Chénia déposait une motion intitulée « CJ, chemin de fer jurassien, encore jurassien ». En substance, elle demandait au gouvernement d'intervenir auprès des CJ afin de repenser et de redéfinir les implantations de ces différents services, y compris celui de la direction de la compagnie. Je rappelle que cette motion faisait suite à mon interpellation 837 déposée le 25 mars 2015 sur la problématique de la gare du Noirmont, elle-même motivée par la réponse du gouvernement du 27 novembre 2013 à la question écrite 2594 de Marie-Yvonne Pic, Jean Dupeux. Le Parlement a accepté cette motion à l'unanimité lors de sa séance du 23 mars 2016, reconnaissant ainsi la pertinence de l'intervention déposée. Ma question au gouvernement est la suivante. Sachant qu'il reste moins de 4 mois pour réaliser la motion, le gouvernement peut-il nous informer de l'état d'avancement des discussions, voire des négociations avec la direction des CJ et les cantons partenaires, et nous indiquer quelles mesures sont envisagées ou planifiées ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour votre question. Pour la réponse du gouvernement, j'invite à la tribune monsieur le ministre David Héret.
Voilà, monsieur le député, quelque part, on peut considérer que la motion est réalisée déjà même avec 4 mois d'avance, puisqu'elle demandait au gouvernement d'intervenir activement. Le gouvernement est intervenu activement, intervient toujours activement, donc on peut la considérer comme réalisée. Par contre, effectivement, ce n'est pas juste une intervention auprès des CJ qui va résoudre ou solutionner ou arriver à bout de ce que souhaiterait la motionnaire Mme Chénia, mais le gouvernement donc a transmis la requête au chemin de fer du Jura par l'intermédiaire des représentants au conseil d'administration. Le canton, je rappelle, n'est pas actionnaire majoritaire, il est actionnaire parmi d'autres, avec la Confédération, les cantons de Berne et de Neuchâtel. Et à savoir aussi que des échanges réguliers ont lieu entre le département de l'environnement et les représentants au conseil d'administration, qui sont donc 3 personnes qui représentent le canton du Jura au conseil, et que cette thématique est à chaque fois abordée, et nous suivons l'évolution de ce qui se passe au niveau de l'entreprise au travers de ces échanges. Bien évidemment que ce n'est pas seulement un souhait politique, mais il y a aussi des enjeux techniques, puisque nous ne souhaitons pas non plus que la compagnie fasse tout et n'importe quoi, donc il y a des réflexions intelligentes qui sont menées pour que tout changement envisagé soit aussi techniquement, tienne la route et fasse du sens dans la perspective d'une entreprise efficiente sur le réseau entre donc Tavannes, La Chaux-de-Fonds et Glovelier. Concernant les analyses donc, qui se poursuivent, je l'ai dit, et donc l'objectif est du Parlement donc, de voir des emplois relocalisés dans le canton du Jura, qui est quand même le principal, en termes de réseau, le principal hébergeur de réseau de rail. Donc le gouvernement souhaite, comme le Parlement, voir donc une partie des opérations des CJ situées sur le territoire cantonal. Et nous maintenons donc le dialogue et les échanges avec le conseil d'administration de la compagnie.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Jean Bourcard est partiellement satisfait. Pour la 8e question du jour, j'invite à la tribune monsieur le député Pierre Parietti.
Pierre Parietti, député PLR, qui vient de pas rentrer.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres, ma question a trait à une problématique liée avec la loi d'impôt. Le canton du Jura, comme une dizaine d'autres cantons, est en dérogation aux dispositions fédérales exigeant dans sa loi cantonale de la part des employeurs l'envoi systématique des attestations de salaire à l'autorité cantonale, donc à l'administration fiscale. Dans la réglementation ou dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs, cette obligation est faite au contribuable qui est l'intervenant direct pour la remise de ces attestations. Une récente décision a été prise à Genève par la Cour constitutionnelle confirmant que l'exigence formulée du côté des employeurs pour la remise des attestations n'était pas conforme. Dès lors, ma question est la suivante. Le canton du Jura va-t-il envisager une modification de manière à alléger quelque peu l'obligation faite aux employeurs, mais surtout de responsabiliser formellement les contribuables? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
En charge des finances.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, votre question a effectivement d'actualité, puisque récemment, notre collègue des finances de Genève a informé ses collègues romands de cette problématique de la Cour constitutionnelle genevoise. Je tiens à préciser cela parce que nous ne nous sentons pas vraiment liés par les décisions de la Cour constitutionnelle genevoise, en tout cas pas en l'état du dossier. De sorte que le gouvernement va examiner si cet arrêt s'impose aux autorités des autres cantons, de même que la conférence des directeurs des finances que je préside a été tout à fait surpris de voir cette décision, quand bien même elle, peut-être qu'elle est conforme aux dispositions légales fédérales. Nous n'avons pas encore justement mené cette analyse. Cela dit, je suis surpris de votre intervention parce que représentants des milieux patronaux genevois ont été aussi surpris de cette décision parce qu'eux n'ont rien demandé. Ils sont très satisfaits de la situation actuelle et n'ont absolument rien demandé. De même que les associations patronales jurassiennes n'ont jamais rien demandé au service des contributions par rapport à cette obligation de remettre les certificats de salaire directement au fisc. Il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, les moyens informatiques permettent de transmettre d'un simple clic l'ensemble des certificats de salaire de ses employés. Et nous recevons plus de 40% aujourd'hui de certificats de salaire par voie électronique, ce qui nous permet de les traiter aussi de manière électronique, ce qui simplifie la tâche du service des contributions et nous permet d'aller plus vite aussi dans les taxations. Donc, pour le moment, nous allons plutôt essayer de faire modifier la loi fédérale pour que celle-ci offre la possibilité aux cantons de continuer cette pratique qui est avérée et admise d'une manière générale, comme je l'ai dit, n'étant pas contestée par personne dans notre canton. Cela dit, si, contre toute attente, nous devions renoncer, eh bien, nous aurons un autre problème et il faudrait trouver une solution pour la mettre en place. C'est notamment le fait que, sans obtenir automatiquement ces attestations de salaire, il s'agirait aussi, par exemple, pour les frontaliers, de courir après ces déclarations de salaire pour pouvoir facturer à la France les 4,5% des salaires versés. Alors, s'il vous plaît, essayons de rester pragmatiques et dans la mesure où il n'y a pas de revendications particulières, nous allons essayer, en attendant, si nécessaire, de discuter avec les représentants des employeurs pour que voir si vraiment il y a un problème, sans quoi nous allons les inviter à continuer de nous envoyer systématiquement les attestations de salaire de leurs employés, ce qui, je l'ai dit, nous simplifie grandement la tâche.
Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Pierre Parietti est satisfait. Pour la prochaine question du jour, j'invite à la tribune monsieur le député Didier Spies.
Didier Spies, député UDC, qui vient de Kourou et qui va donc prendre place à la tribune.
Monsieur le président, chers collègues, madame et messieurs les ministres, au col pédestre Welschketterli, à la frontière cantonale entre le Jura et Soleure, plus précisément entre les communes de Montsevelli et Hirschville, se trouve un panneau officiel de Jura Tourisme et Jura Trois Lacs. Avec une caricature du dessinateur Pitch qui représente un sommet ou le sommet du Röstigraben. Une flèche montre dans une direction avec l'inscription Jura et un petit cœur. Dans cette direction, on y trouve un ciel bleu et un soleil radieux. La flèche dans l'autre direction, avec l'inscription « Reste du monde », mène dans une vallée sombre, avec un brouillard bien épais et gris. Plusieurs personnes, randonneurs et cyclistes, m'ont déjà interpellé à ce sujet. J'ai donc enfilé mes chaussures de marche et je suis allé vérifier sur place ce lundi. Effectivement, il s'agit bien d'un panneau officiel de deux institutions qui devraient, en principe, promouvoir le tourisme pour le canton du Jura et la région Jura-Trois-Lacs. Deux institutions qui reçoivent tout de même chaque année 780 000 francs du canton du Jura pour faire un travail sérieux. Est-ce que le canton du Jura souhaite ainsi la bienvenue aux touristes des cantons voisins de Bâle-Campagne, Berne, Soleure et Neuchâtel? D'autres personnes m'ont aussi rappelé la réaction des jurassiens lors de la publication de la fameuse affiche de l'UDC Jura Bernois, représentant un canton du Jura gris avec des souris ou éventuellement des rats. D'où ma question, est-ce que le gouvernement jurassien cautionne par le cofinancement des deux institutions en question la pose de tels panneaux à la frontière cantonale? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour cette question et pour la réponse du gouvernement. J'invite à la tribune monsieur le ministre Jacques Gerber.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député, tout d'abord, merci d'avoir soumis au gouvernement ce panneau qu'il a découvert ce matin. Évidemment, le gouvernement jurassien ne souscrit absolument pas à ce genre de message si nous voulons, comme vous l'avez mentionné, être ouverts et faire une promotion positive de notre canton, de notre état d'esprit également. Le département de l'économie et de la santé prendra langue avec Jura Tourisme et Jura Trois Lacs pour voir dans quelle mesure, comment cette campagne a été décidée et dans quelle mesure le message transmis à travers ce panneau pourra être modifié ou supprimé.
Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Didier Spies est satisfait. Pour la prochaine question du jour, j'invite à la tribune Madame la députée Erika Henkin.
Erika Henkin, députée vert CS Pop qui vient de Courgenay.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire deux, trois mots sur la COP23 qui vient de se terminer. Alors, vous avez aussi lu ou entendu, il y a quelques jours, une quinzaine de milliers de scientifiques de nombreux pays lançaient une alarme. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent sérieusement décroître si on veut éviter que le climat ne s'emballe. Mais les politiques climatiques actuelles font que les émissions de CO2 sont de nouveau à la hausse en 2017, alors qu'ils étaient un peu à la baisse les années précédentes. Et deux ans après la COP21, les États n'ont pas pris d'engagement pour qu'un scénario catastrophe ne se produise pas. Nous savons tous que des réglementations politiques sont nécessaires et urgentes aussi pour changer les politiques énergétiques. L'économie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, actuellement, est, je cite, « une machine à réchauffer la planète ». Pour conserver une chance raisonnable de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, il faut arrêter de perdre du temps. À ce sujet, donc, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement jurassien veut faire sa part, est d'accord de faire sa part aussi? Est-ce qu'il est prêt à s'engager pour une politique énergétique plus efficace en ayant le courage de tenir tête aux différents lobbies de production de CO2? Dans le Jura également, je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à Monsieur le ministre David Herret.
En charge de l'environnement.
Madame la députée, effectivement, donc le thème COP21 puis COP23 sont des éléments sur lesquels nous sommes très attentifs au niveau du gouvernement, mais surtout au niveau de la Berne fédérale, puisque c'est la Confédération qui signe ces accords au nom du pays suisse. Accord d'ailleurs, nous avons vérifié qu'ils n'engagent pas ou qu'ils n'ont pas de contraintes pour les cantons suisses en l'état. Donc malgré ça, nous restons quand même attentifs. Au niveau de la politique climatique, peut-être quand même un élément important, c'est que le canton du Jura reçoit, il y a la taxe du centime climatique qui est rendue au canton et qui est donc utilisée dans le programme bâtiment. Pour ce programme bâtiment, donc il y a, par exemple, au budget 2018, un montant de 3,5 millions qui est proposé, donc qui sera proposé au Parlement dans le cadre du budget, en augmentation de 200 000 francs par rapport donc, à cette année où il y avait 3,3 millions. La part cantonale est de 660 000 francs. Donc c'est 660 000 francs que le canton investit dans le programme bâtiment en complément au centime climatique que nous recevons, permettent donc de générer les 3,5 millions d'aides, de subventions que nous pouvons donc octroyer aux différentes personnes qui investissent dans notamment l'enveloppe de leur bâtiment. À relever que l'effort du canton du Jura est au-dessus de la moyenne des cantons suisses, sachant que certains cantons ne mettent aucun centime, aucun franc dans ce programme bâtiment et se contentent simplement de retransmettre à leurs citoyens la part qu'ils reçoivent de la Confédération. Donc là, on peut déjà dire que le canton du Jura est exemplaire, en tout cas par rapport à la moyenne inférieure des cantons suisses. Maintenant, je terminerai peut-être par deux anecdotes, mais qui sont, à mon avis, significatives de l'effort que nous faisons tous, gouvernement et Parlement. Tout d'abord, au niveau du gouvernement, il y avait au budget 2017 la possibilité d'acquérir 2 véhicules pour déplacer les membres du gouvernement. Le gouvernement a choisi de n'en acheter qu'un, et un véhicule hybride plus. Donc là, c'est un petit pas du gouvernement qui permettra donc de réduire l'impact environnemental du gouvernement sur la planète. L'autre élément, c'est au niveau du Parlement. Vous recevrez prochainement une invitation pour la réception de la présidente qui se déroulera le 22 décembre au Franche-Montagne. Et je sais déjà qu'il vous sera suggéré, donc aux membres du gouvernement et du Parlement, de venir à cette réception avec les transports publics, puisqu'il y a des horaires qui permettent à la fois de se rendre sur place, à Saint-Bray, et qui permettront également de redescendre dans la vallée, respectivement Nageois, en toute sécurité, à des heures convenables, voire tardives. Voilà, Madame la députée.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Erika Henkin est satisfaite. Pour la 11e question du jour, j'invite à la tribune Madame la députée Florence Bösch.
Florence Bösch de Boncourt, députée PDC, qui va prendre place à la tribune. On en est à la 12e question orale, il y en aura 16 dans cette séance du Parlement.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, au printemps 2016, je posais une question écrite au sujet de la sécurité sanitaire jurassienne, car je jugeais le système fragilisé et en danger. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait, je cite, « L'hôpital du Jura réfléchit, en collaboration avec le service de la santé publique et la société médicale du canton du Jura, à un concept cantonal d'urgence et de sauvetage. » Et un peu plus loin, je cite à nouveau, « Cette nouvelle organisation devrait être présentée au gouvernement à l'été, ensuite au Parlement. » Deux étés ont passé depuis. D'où ma question. Le nouveau concept d'urgence et de sauvetage a-t-il déjà été présenté au gouvernement ? Et qu'adviendra-t-il de ce concept dans le contexte actuel délicat de l'hôpital du Jura ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, qui est également en charge de la santé.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, le concept cantonal de médecine d'urgence et de sauvetage est un concept qui est élaboré par l'hôpital du Jura en collaboration avec le service de la santé et la société médicale du canton du Jura. Heureusement, ce concept ne repose pas sur des personnes. Et je profite de cette tribune pour répéter qu'il n'y a aucun problème de gouvernance à l'hôpital du Jura, sachant que la direction ad intérim est garantie, ainsi que la présidence ad intérim. Donc ce concept n'est pas en relation avec cet aspect. Ce concept vise à garantir une sécurité sanitaire optimale sur l'ensemble du territoire jurassien, donc pour toute la population jurassienne. Les aspects liés à la sécurité sanitaire, donc aux vraies urgences, sont, comme je l'ai mentionné, consolidés entre les acteurs. L'organisation actuelle ainsi que les modifications en discussion garantissent, Madame la députée, la sécurité de l'ensemble de la population jurassienne. Les modifications proposées, notamment la création d'un SMUR, améliorera encore cette sécurité pour le cas où la vie est en jeu. Les aspects, par contre, liés à la bobologie, je sais que c'est un terme qui n'est pas forcément apprécié dans le monde médical, mais ce sont les petites urgences, ce sont les urgences non vitales, sont quant à eux encore en discussion entre les partenaires, et quelque part, c'est cela qui bloque encore le dossier. Les partenaires que sont la société médicale, l'hôpital du Jura, et le service de la santé ainsi que le département leur a demandé de se coordonner afin d'optimiser l'utilisation des ressources médicales de proximité, les médecins de ville et les services d'urgence avec leurs spécificités, spécialisation, équipement, disponibilité. Une prochaine rencontre aura lieu d'ici à la fin de l'année pour faire le point et définir les prochaines étapes de manière coordonnée. En résumé, Madame la députée, rien ne change au niveau du service des urgences telles que des urgences vitales. La sécurité est garantie. Le gouvernement sera, je l'espère, nanti de ce dossier au début de l'année prochaine pour que l'on puisse transmettre le dossier, un message au Parlement pour modifier la loi sanitaire qui exige encore aujourd'hui que l'hôpital du Jura offre 3 sites d'urgence au niveau du canton du Jura, ce qui n'est plus tout à fait le cas, ce qui n'est même plus du tout le cas, et qui sera remplacé par ce concept d'urgence avec un SMUR, avec une meilleure efficience dans l'organisation de l'ensemble du système actuellement en place. En résumé, pas de risque de sécurité sanitaire dans l'attente de ce nouveau concept et avec le nouveau concept, une amélioration des processus, une amélioration encore de la sécurité et surtout une diminution également au niveau de l'utilisation, par exemple, des hélicoptères qui aujourd'hui sont fortement utilisés justement parce que nous n'avons pas ce système de SMUR. Donc j'espère que nous pourrons apporter les réponses appropriées au Parlement dans le courant 2018 afin de modifier la loi et de mettre ce système en place.
Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Florence Beuchet, satisfait. Pour la prochaine question, j'invite à la tribune Madame la députée Katia Lehmann.
Katia Lehmann, députée PS de Villars, pour la 12e question. Cette fois, je vous ai dit 12 tout à l'heure, mais c'était la 11e. Mes excuses, il en restera 4 après celle de Katia Lehmann.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, élément indispensable des rentrées nocturnes du week-end, le Noctambus est dans une situation financière fragile et les petits déficits se succèdent. Les ressources financières de cette association reposent sur les subventions des pouvoirs publics pour 58%, la billetterie pour 33%, le solde étant obtenu par les cotisations et dons de membres et sponsors. La participation des communes desservies dépend du nombre d'habitants et de courses. Elle se monte au maximum à 2 francs par habitant. Devenu un réflexe pour de nombreux concitoyens, le Noctambus remplit depuis plusieurs années et à la satisfaction générale les objectifs visés lors de sa création, à savoir qu'il est un pilier essentiel de la mobilité des jeunes et moins jeunes en soirée et qu'il est garant de sécurité tout en valorisant les transports publics. 36 000 passagers ont profité de ses services en 2016 pour 13 lignes de bus qui circulent les vendredis et samedis en soirée. Toutefois, l'association du Noctambus jurassien peine à équilibrer ses comptes, malgré une énergie considérable consacrée à la recherche de sponsors et d'autres donateurs. Cette structure de prévention doit être encouragée et soutenue afin de maintenir, voire de développer encore, son offre tout en bouclant ses comptes dans les chiffres noirs. Dès lors, ma question est la suivante. Le gouvernement est-il prêt à entrer en matière pour une augmentation de sa participation financière ou pour toute autre aide permettant d'assurer à long terme la santé financière de l'association Noctambus qui contribue de manière déterminante à la sécurité sur la route des jeunes jurassiennes et jurassiens? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée, pour votre question. Pour la réponse du gouvernement, j'invite à la tribune Monsieur le ministre David Herré.
Madame la députée, effectivement, je confirme vos propos, en tout cas pour ce qui est de mettre en valeur le Noctambus, puisque le gouvernement donc, se félicite de l'existence du Noctambus, qui non seulement contribue à l'attractivité du Jura, la mobilité, mais surtout, c'est un élément important de sécurité routière, pour notamment les personnes qui rentrent peut-être des fois tardivement. En 2006, donc, le canton a créé le Noctambus en Anjouaille dans la vallée, par un arrêté que le Parlement a validé. Service du Noctambus qui existait déjà préalablement en Franche-Montagne. Et donc, il y a eu en 2010 une fusion qui a donné lieu ou donné naissance à l'association du Noctambus jurassien. Au niveau des contributions du canton, effectivement, donc jusqu'en 2013, le canton participait à hauteur de 140 000 francs par année pour financer le Noctambus. Contribution qui a été augmentée en 2013 à 170 000 francs. Pour le budget 2018, qui est en discussion actuellement à la Commission de gestion des finances, le gouvernement propose au Parlement de maintenir cette contribution à hauteur de 170 000 francs et donc de poursuivre les efforts dans ce domaine de soutien au Noctambus. Et voilà donc pour les chiffres qui sont proposés actuellement au Parlement pour validation au travers du budget. Et nous relevons également que même si le Noctambus doit relever actuellement certains défis au niveau financier, nous restons confiants en son avenir, tant il est vrai que ce service répond à un véritable besoin.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Katia Lehmann est partiellement satisfaite. Nous en sommes à la 13e question. Et pour la poser, j'invite Monsieur le député Romain Cher à la tribune.
Romain Cher, député de Miécourt, qui va poser donc cette 13e question orale.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, chers collègues.
Ayant à nouveau la chance de reprendre les rênes de ma commune, la Baroche, dès 2018, j'ai repris mon manuel « Être maître » et je me rappelle de la situation vécue lors des inondations de 2007. À ce moment-là, j'étais très heureux de pouvoir compter sur les sapeurs-pompiers et leurs moyens matériels, tout comme sur ma formation d'officier supérieur acquise lors du cours d'aide en cas de catastrophe suivi et dispensé avec le bataillon de génie 2. Vu que les risques naturels n'ont pas diminué et que le sujet des tremblements de terre revient au goût du jour avec la géothermie, vu que la plupart des conseillers communaux seront renouvelés en 2018, le thème de la protection de la population est toujours relevé au sein d'un conseil communal, mais très souvent mis de côté en attendant la prochaine catastrophe naturelle. Au niveau d'aide sociale, des moyens annuels colossaux sont mis à disposition, alors que la protection de la population reste en veilleuse. Ma question très basique, dans un premier temps, quelle appréciation a le gouvernement quant au niveau de préparation du canton et des communes au sujet de la protection de la population et pense-t-il mettre sur pied une journée d'information pour les communes dans le courant 2018 pour rappeler les quelques points vitaux des mesures à prendre en cas de catastrophe et ce qu'on attend des communes dans la préparation des interventions? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, j'invite sa présidente, madame la ministre Nathalie Barthelot.
Ministre de l'Intérieur.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, la question que vous posez, monsieur Cher, est tout à fait pertinente. Il est vrai que les risques aujourd'hui sont de plus en plus identifiés et que dans ce cadre, l'IMCC est bien évidemment appelé à préparer toute situation qui pourrait survenir. Donc un plan d'analyse des risques du canton a été lancé très dernièrement et bien évidemment, il est clair que les communes seront associées étroitement à sa rédaction et à sa mise en œuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre question.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Romain Cher est satisfait. Pour la prochaine question, j'invite à la tribune Monsieur le député Rémi Murie.
Rémi Murie, Delémontin, et député Vert et CS Pop.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, nous avons appris récemment le départ spontané du conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé. Ce poste sera, dès le 1er février prochain, une fois de plus vacant. Le conseiller pédagogique qui s'en va n'a pas ménagé ses efforts pour assumer ses tâches au mieux en répondant aux demandes de plus en plus nombreuses de parents, d'enseignants, de directions ou de commissions d'école. La volonté d'intégration, voire d'insertion scolaire, manifestée par les autorités, doit pouvoir s'appuyer sur une section d'intégration, précisément, suffisamment dotée en personnel. À l'origine, ce poste de conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé représentait un EPT. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un demi-EPT qui y est consacré. C'est clairement et unanimement reconnu par les professionnels de l'enseignement comme étant largement insuffisant. Ces mêmes professionnels attendent avec enthousiasme la mise en place du concept de pédagogie spécialisée qui sera bientôt mis en consultation. Son principal concepteur, Georges Reiss, est un garant de qualité, tant ses compétences dans le domaine sont connues et reconnues. Mais tout projet, aussi brillant, plaisant et motivant qu'il soit sur le papier, ne peut être un véritable succès que si le personnel chargé de sa mise en place et de sa mise en œuvre est compétent, c'est le cas, et en suffisance, alors là, ce n'est pas le cas. Il n'est pas concevable non plus que les tâches dévolues au conseil pédagogique de l'enseignement spécialisé soient attribuées, même très partiellement, à d'autres fonctions actuellement repourvues au sein et déjà largement occupées. Il n'y a à mes yeux, et des personnes que j'ai pu consulter sur ce thème, qu'un retour à la dotation d'origine d'un EPT pour le conseil pédagogique spécialisé, et je serais tenté de dire au moins un EPT, pour que la personne chargée d'assumer cette intense, importante et exigeante fonction parvienne à répondre aux besoins croissants dans le domaine. Ainsi, le gouvernement entend-il revoir la dotation de ce poste qui devrait être mise au concours prochainement, considérant que cet investissement d'un demi-EPT supplémentaire évitera, c'est certain, d'autres dépenses garanties en matière d'intégration scolaire trop mal maîtrisées aujourd'hui dans notre canton.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Ministre en charge de l'éducation et de la formation.
Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, peut-être dire en préambule qu'idéalement, effectivement, je serais tout à fait d'accord avec vous, monsieur le député, pour avoir un poste complet au niveau de la du conseil pédagogique spécialisé. Mais vous savez que dans le cadre de la refonte du service dans l'enseignement, nous avons eu comme ligne directrice de maintenir le nombre de postes. Et c'est évidemment dans ce contexte-là que je vous réponds. Si la dotation du conseil pédagogique spécialisé a baissé, ce sont bien que ces tâches ont effectivement évolué. La procédure d'évaluation standardisée et la mise en œuvre de la commission d'évaluation auront des répercussions importantes sur le travail du conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé et vont simplifier certaines de ses tâches administratives, donc certaines tâches qu'il effectue actuellement. De plus, la majorité des séances réseau qui prenaient beaucoup de temps, notamment en animation, mais aussi en effectuant par exemple tous les PV, eh bien, ces tâches maintenant sont animées par les enseignants spécialisés, ce qui permet également d'alléger la tâche de ce conseiller pédagogique. À court terme, le concept de pédagogie spécialisée et l'engagement d'une inspectrice ou d'un inspecteur scolaire auront également un impact positif pour le conseil pédagogique. La séparation plus nette des tâches entre le contrôle et le conseil contribuera également à clarifier le rôle de ces conseillers. Il faut encore ajouter, pour donner une perspective peut-être quand même à cette réponse du gouvernement, qu'à moyen terme, donc l'arrivée de Moutier au sein du canton du Jura impliquera évidemment un réexamen des postes équivalents plein temps au sein du service de l'enseignement et donc au niveau du conseil pédagogique. C'est dans ce cadre-là, et en bénéficiant donc d'un recul maintenant, puisque ce dont je vous parle est tout récent, d'un recul après donc la mise en œuvre du concept de pédagogie spécialisée et l'engagement de cette inspectrice ou de cette inspecteur, que l'on pourra vraiment évaluer les besoins finaux en termes d'équivalent plein temps pour le conseil pédagogique. Mais ceci dit, n'oublions pas la vue d'ensemble actuelle sur le conseil et le contrôle pédagogique au niveau primaire, secondaire et spécialisé. Il y avait avant cette réorganisation du service d'enseignement 400% et à l'heure actuelle, nous passons à 350% avec une répartition, je le disais, une répartition différente des tâches, notamment dans le cadre du concept d'enseignement spécialisé. En conclusion, le gouvernement n'entend pas revoir la dotation du poste actuellement mis au concours. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Pas satisfait.
Monsieur le député Rémi Meury n'est pas satisfait. Pour la 15e question du jour, j'appelle à la tribune notre ancienne présidente, Madame la députée Anne Roy.
Anne Roy, députée PDC de Port-en-Truy, donc pour l'avant-dernière question orale, et puis ensuite, ce sera la dernière qui viendra clore.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, dans le cadre des travaux de rénovation du mur de soutènement du château de Port-en-Truy, on apprenait le mois dernier que ceci avait permis la découverte surprenante d'une centaine de boulets de pierre stockés aux abords de l'esplanade. Des boulets de pierre devant servir de munitions pour catapultes dans le courant du Moyen-Âge. Cette découverte, sans aucun doute réjouissante à plus d'un titre pour ce haut lieu de l'histoire de notre région, sera susceptible d'attirer de nombreux visiteurs. Dès lors, je demande au gouvernement si une réflexion sur sa mise en valeur a déjà été entamée et le cas échéant, peut-il nous en partager les grandes lignes. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je cède à nouveau la parole à Monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Madame la députée, vous avez utilisé le qualificatif de surprenant pour cette découverte. Eh bien, elle l'est sans aucun doute. On peut même dire qu'elle est unique, puisqu'il s'agit à notre connaissance de la plus importante collection de ce type de munitions au niveau national. Elle a été mise donc à jour par l'Office cantonal de la culture et plus précisément donc par la section d'archéologie et de paléontologie. Ces pièces ont été identifiées comme des munitions pour catapultes, au total 116 boulets datant du XIIe au XVe siècle, taillés dans le calcaire et pesant entre 25 et 250 kilos. Ils ont été déposés sous l'esplanade durant le réaménagement du château de Port-en-Truy au début du XIXe siècle. Il est bien dans l'intention du gouvernement de mettre en valeur cette importante découverte et d'en faire un point d'attraction pour Port-en-Truy et pour l'ensemble du canton du Jura. Je peux vous assurer que nous ne perdons pas de temps dans ce dossier, puisque jusqu'au printemps, ces munitions seront donc lavées et documentées scientifiquement. La section des bâtiments et domaines de l'Office de la culture tiendront dans 10 jours une première séance avec un bureau d'architecture de la place pour plancher sur une étude de faisabilité. L'idée initiale est de mettre en valeur tout ou partie de ces munitions d'une manière ludique et pédagogique. Le site étudié en priorité est la parcelle située au pied de la tour Réfousse, qui elle-même date de la période médiévale. Les partenaires potentiels, bien sûr, seront approchés pour la réalisation de ce projet à grand potentiel touristique et en premier lieu, bien sûr, la municipalité de Porrentruy. La réalisation de l'ouvrage est prévue au plus tard pour 2019. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, madame la députée ? Madame la députée Anne Roy est satisfaite. Nous sommes dans les temps pour accueillir la dernière question du jour. Et pour ce faire, j'invite madame la députée Anne Froidevaux à la tribune.
Anne Froidevaux, députée PDC de Châtillon, qui vient donc clore cette
monsieur
séance
le président,
des
madame et messieurs les ministres, chers collègues, nous apprenons cette semaine que les cantons de Berne et du Jura ont un accord concernant le financement des soins en EMS depuis juin 2016 et que celui-ci a été résilié par Berne pour la fin de l'année. L'accord en question prévoyait que lorsqu'un citoyen bernois est pris en charge dans un EMS jurassien, le canton de Berne assume le financement résiduel des soins fournis par le Jura, et ce, même si un changement de domicile intervient par la suite. Berne s'était ainsi aligné sur la pratique jurassienne. Le gouvernement peut-il nous indiquer quelles seront les conséquences de la résiliation de cet accord pour notre canton ? Je le remercie pour sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je cède la parole à monsieur le ministre Jacques Guervais.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, peut-être en préambule, juste mentionner que dans notre canton, le service juridique avait été consulté sur cet accord en question. Effectivement, cet accord consistait à confirmer entre les deux cantons que nous respectons les recommandations de la conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé de considérer le domicile pour les patients hors canton selon les bases légales des prestations complémentaires, c'est-à-dire le canton de domicile avant l'entrée en EMS. Donc c'était juste, cet accord permettait de combler en fait un vide juridique qui ne précisait pas les choses. Entre-temps, les chambres fédérales, en septembre, ont mis sous toit une nouvelle loi qui devrait régler les choses entre les cantons concernant justement les PC et le financement des soins résiduels. Mais la mise en œuvre n'est pas encore décidée, la date de mise en œuvre. Pour faire très très simple dans ce dossier extrêmement compliqué et répondre à votre question de manière directe, il n'y aura aucun effet pour les patients jurassiens, les résidents jurassiens dans un EMS bernois, parce qu'ils bénéficieront des prestations complémentaires jurassiennes ainsi que du financement résiduel des soins. Par contre, il y aura un effet pour les résidents bernois dans un EMS jurassien. Ils auront les PC bernois, par contre, ils n'auront pas de financement résiduel aux soins. Le problème pourra être peut-être sur les patients ou les institutions qui ne recevront pas cette partie de financement résiduel des soins du canton de Berne, quoique il faudra voir dans la réalité si Berne met réellement en place cette manière de faire. Peut-être pour relativiser le propos, 31 jurassiens sont actuellement dans des EMS bernois, alors que seulement 5 bernois sont dans des EMS jurassiens. Voilà ce que je peux vous amener comme réponse, madame la députée.
Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse. Quelle est votre appréciation, madame la députée ? Madame la députée Anne Froidevaux est satisfaite. Nous avons donc traité toutes les questions orales du jour. Nous pouvons
voilà qui vient clore la séance des questions orales pour
à la présidence
cette
du gouvernement
avec
novembre,
la suite des débats. Vous pouvez évidemment les suivre sur
rapport
notre
du gouvernement
site
sur les affaires extérieures 2016. Et
un grand
pour
merci
ce faire,
de nous
j'invite
avoir
à la tribune
suivi pour
la présidente
cette première partie de la
Madame
séance du jour.
Ministre Nathalie Barthelot.
Merci beaucoup, Jérémy Pignard.